VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington, mardi 8 mai 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Au Togo, l'opposition prévoit de nouvelles marches contre le régime du président Faure Gnassingbé. Au Tchad, le président Idriss Déby a nommé les membres de son gouvernement. Une nouvelle épidémie de fièvre Ebola a fait 17 morts dans la province de l'Équateur en RDC. En 2017, près de 100 000 migrants venus principalement de la Corne de l'Afrique ont fui leur pays pour se réfugier au Yémen. Ne ratez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. Le président américain Donald Trump critique tous les aspects de l'accord sur le nucléaire iranien. Il a donc annoncé le retrait des États-Unis de cet accord et a imposé des sanctions strictes contre le régime de Téhéran, n'est-ce pas Abdourahmane Dia?
Oui, Morgane, c'est un peu après 14 heures de Washington, 18 heures en temps universel, que le président Donald Trump a fait son apparition tout à l'heure dans le salon diplomatique de la Maison Blanche. Et c'est donc officiel, les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. Il affirme avoir engagé des consultations avec les partenaires, notamment européens, comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Mais il n'est pas convaincu de la sincérité de Téhéran, a-t-il dit. Et les exemples récents qu'il a cités, comme les documents secrets révélés par Israël la semaine dernière. Et une citation assez intéressante, Morgan, il dit « Quand je fais des promesses, je les garde », en référence un peu à cette promesse de campagne qu'il allait se retirer si rien n'était fait pour fixer, selon lui, cet accord qu'il a toujours dénoncé. Et il a également dénoncé tout à l'heure une dictature, selon lui, en Iran, mais dit entrevoir un avenir radieux pour les Iraniens. De belles choses vont se produire en Iran, a-t-il dit. Et ce retrait donc couvre des rendements incertains concernant les relations entre l'Iran et les États-Unis, même si les autres signataires de l'accord, les 5 autres signataires, ne semblent pas prêts à suivre l'exemple de Washington. Mais peut-être il faut juste suivre pour voir ce qui va se passer.
Merci Abdourahmane Dia. Au Togo, l'opposition prévoit de nouvelles marches contre le régime du président Faure Gnassingbé à Lomé et dans plusieurs villes, malgré les changements d'itinéraire imposés par le gouvernement. Le point avec Irénée Herman Oumpo.
Le gouvernement n'a pas interdit les manifestations, mais a imposé des itinéraires que l'opposition refuse d'emprunter. C'est une violation de la loi selon Éric Dupuis, porte-parole de la coalition de l'opposition, qui assure que les marches auront bel et bien lieu. Payadoua Boukpessi, ministre de l'administration territoriale, a évoqué des plaintes déposées par des riverains. Ces dernières semaines, les lieux de rassemblement des opposants ont toujours été bouclés par les forces de l'ordre. Depuis septembre, des dizaines de milliers de Togolais sont descendus dans les rues pour demander l'application de la Constitution de 1992 qui implique une limitation à 2 le nombre de mandats présidentiels. Les négociations engagées depuis le 19 février sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo ont été interrompues après 3 séances et sont depuis au point mort.
Au Tchad, le président Idriss Déby a nommé les membres de son gouvernement après la promulgation de la nouvelle constitution pour une 4e république. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le nouveau gouvernement est composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 9 femmes. Ils vont tous prêter serment devant le président Idriss Déby Itno, comme le veut la nouvelle constitution. 10 anciennes personnalités ont quitté le navire, dont le ministre des Infrastructures, ceux des Finances et du Pétrole. Kassiré Koumakoy, ancien premier ministre, devient ministre d'État, conseiller à la présidence, et l'avocat Jean-Bernard Padaré, ministre d'État chargé des Infrastructures. Le portefeuille de la Défense et de la Sécurité et celui des Affaires étrangères n'ont pas changé. La Constitution, dont l'adoption a été boycottée par les députés de l'opposition, consacre désormais un régime présidentiel intégral sans premier ministre ni vice-président. Vendredi, le président Idriss Déby Itno a confirmé que les élections législatives, repoussées depuis 2015, vont se tenir en novembre 2018. Il a aussi décrété une amnistie générale, invitant tous les Tchadiens exilés à rentrer au pays. Mais Abakar Toulimi, ex-conseiller du président, les rebelles de l'Union des forces de la résistance et ceux de l'Union des forces pour la démocratie et le développement ont rejeté cet appel.
La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola. Le ministère de la Santé compte 17 morts et 21 cas de fièvre avec des signes hémorragiques dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de la 9e épidémie d'Ebola en RDC depuis 1976. Au Burundi, suite à la suspension de la VOA et de la BBC dans le pays, le correspondant de la VOA Kirundi Kinyarwanda, Jean Bosco Daruzrenze, a été chassé lundi d'un événement organisé à Kirundo par le CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Les services de sécurité ont confisqué son enregistreur avant de le lui restituer plus tard, avec ordre d'effacer tout enregistrement qu'il aurait réalisé à Kirundo. Le Conseil national de la communication du Burundi dit déplorer l'incident. Dans un communiqué, le président du CNC, Karenga Ramadani, a fait savoir que son instance a suspendu la retransmission des radios BBC et VOA dans le pays, mais que leurs journalistes peuvent continuer à exercer leur métier, profession, tout en informant le CNC en cas de problème. Monsieur Ramadani a par ailleurs lancé un appel aux responsables des administrations territoriales de renforcer le cadre de collaboration avec et de concertation avec les médias.
7000 migrants entrent au Yémen chaque mois selon l'Organisation internationale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
71 morts, c'est le bilan de l'attaque entre des milices civiles et un groupe de bandits armés qui a eu lieu samedi dans le nord du Nigeria. Un chiffre donné par l'AFP et qui cite un leader traditionnel. Les corps des victimes ont été retrouvés dans les environs de Gwaska, dans l'état de Kaduna, épicentre des violences entre des groupes armés de voleurs de bétail venant de l'état voisin de Zamfara. Nigeria toujours, le président Muhammadu Buhari devait s'envoler aujourd'hui vers Londres pour y voir son médecin. C'est ce qu'a fait savoir la présidence. L'ancien général de 75 ans a déjà passé plus de 5 mois à Londres l'année dernière pour être soigné d'une maladie non communiquée au grand public. Il devrait rester 4 jours dans la capitale britannique et être de retour samedi 12 mai. La semaine dernière, il s'était déjà arrêté à Londres lors de son retour de Washington. Madagascar, la commission électorale malgache a proposé d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives. Initialement prévue en toute fin d'année, la CENI propose la date du 29 août 2018 pour le premier tour de l'élection présidentielle. L'objectif est de sortir de la crise politique qui secoue la grande île depuis fin avril. L'opposition malgache demande le départ du président Héry Rajaonarimampian, élu fin 2013. Ce dernier n'a pas encore annoncé s'il allait ou non briguer un nouveau mandat. Dans le cas où des élections anticipées ne feraient pas l'unanimité, la CENI a proposé de les organiser le 28 novembre ou de les retarder au 29 mai 2019. Dans l'est de la Libye, attentat suicide contre un barrage de l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Au moins 2 personnes, dont un civil, ont été tuées dans l'explosion d'un véhicule conduit par un kamikaze à 90 km à l'est de Sirte. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, intervient au lendemain de l'annonce par le maréchal Haftar du début d'une offensive pour libérer la ville de Derna sous le contrôle du conseil de la Choura des Moudjahidines, une coalition hétéroclite des milices islamistes et djihadistes. En 2017, près de 100 000 migrants venant principalement de la Corne de l'Afrique ont fui leur pays pour se réfugier au Yémen malgré la guerre et la crise humanitaire qui ravage ce pays. Marie Benson.
7 000 migrants entrent au Yémen chaque mois selon l'Organisation internationale pour les migrants. En 2017, le nombre de migrants a atteint 100 000. Pour la plupart, ils fuient les violences et la pauvreté et proviennent de l'Érythrée, la Somalie ou de l'Éthiopie. Ils espèrent atteindre des pays plus prospères du Golfe Persique. En 3 ans, 10 000 personnes ont été tuées dans la guerre au Yémen. Quelques chanceux trouvent un travail clandestin. Beaucoup sont confrontés à de mauvais traitements, aux abus sexuels et au travail forcé. L'organisation Human Rights Watch a déclaré que les employés du gouvernement yéménite ont torturé, violé et exécuté des migrants et demandeurs d'asile dans le centre de détention de Bouraïka, dans la province d'Aden, dans le sud du pays.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a effectué hier et aujourd'hui sa deuxième visite en Chine en moins d'un mois et demi. Les deux pays cherchent à afficher leur rapprochement avant le sommet entre l'homme fort et Pyongyang et le président américain Donald Trump. Divisé au sujet du programme nucléaire nord-coréen, les dirigeants nord-coréens et le président chinois Xi Jinping ne s'étaient pas vus depuis leur arrivée au pouvoir au début de la décennie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Eric Manirakiza.
La croissance pour 2018 ne devrait pas dépasser 4% en Afrique subsaharienne. D'après le FMI, les bonnes perspectives économiques mondiales, une hausse des prix des matières premières et un meilleur accès au marché international des capitaux favorisent cette légère reprise. Cependant, elle reste insuffisante pour atteindre des objectifs de développement soutenable. L'assainissement des finances publiques reste problématique et 40% des pays à faible revenu dans la région sont surendettés ou présentent un risque élevé de le devenir. Le ministre ivoirien des Mines, Souleymane Diarra-Souba, a appelé à des réformes vigoureuses dans les secteurs de mines et d'hydrocarbures pour évoluer vers une industrialisation dans la zone CDAO. L'Afrique de l'Ouest détient le tiers des réserves de pétrole et de gaz naturel du continent noir. Monsieur Diarra-Souba a déploré que la plupart de ces ressources soit généralement exploité sous forme brute, sans transformation importante. La région dispose également dans son sous-sol de l'or, de l'uranium, de la bauxite, du diamant, du fer, du manganèse et des gisements de classe mondiale. Le légendaire Plaza Hotel de New York va être racheté pour 600 millions de dollars. La transaction doit être finalisée le 25 juin. Un des acheteurs est basé à Dubaï et prévoit d'en faire une marque mondiale. Le Plaza Hotel existe depuis plus de 100 ans et apparaît dans plus de 30 films hollywoodiens. Le Plaza a appartenu un temps au président des États-Unis Donald Trump. Il est actuellement géré par le groupe français Accor.
Et on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Départ du tour cycliste du Bénin.
La 15e édition de ce Tour cycliste du Bénin qui s'était lancé de Tanguyeta, au total 8 pays présents pour cette édition. Le Togo, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Bénin avec deux équipes. Première étape, je le disais, entre Tanguyeta et Djougou, remportée par un Burkinabé, Yarbanga Salifou, qui devance Ilboudou Aruna et Bikenga Safo. Ce trio Burkinabé qui donc permet au Burkina Faso de remporter également le maillot jaune sur les épaules de Yarbanga Salifou. La prochaine étape, ce mercredi, entre Djougou et Parakou, longue de 125 km.
Report d'un match en Ligue africaine des champions.
La rencontre Mamelodi Sundowns-Oroya pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des champions a été reportée d'une semaine. Et ce, à la demande du club sud-africain et après accord du club guinéen. La raison, le match programmé entre les Sud-Africains et le FC Barcelone, un match amical. Conséquence, la rencontre entre les Mamelodi Sundowns et Oroya aura lieu le mardi 22 mai au stade du 28 septembre à Conakry. L'autre rencontre du groupe entre le WAC de Casablanca et l'AS Togo Port aura bien lieu le 15 mai au complexe Mohamed V à Casablanca.
Suite de la saga Griezmann.
Le président du club madrilène, Enrique Cerezo, a refusé d'alimenter les spéculations grandissantes autour d'un possible départ de l'attaquant français vers le FC Barcelone. À 27 ans, Griezmann a entretenu ces derniers mois l'hypothèse d'un départ de l'Atlético, son club depuis 2014. Le leader d'attaque de l'équipe de France fera connaître sa décision avant le début du mondial 2018.
La Juventus en route pour un dernier titre cette saison.
La Juventus Turin, triple tenante de la Coupe d'Italie, est quasiment assurée d'un 7e Scudetto d'affilée et favorite contre le Milan AC. Ce sera demain soir à Rome.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
LeBron James et les Cavaliers sont décidément indomptables. Cleveland a piétiné les Raptors de Toronto 128-93. Ils décrochent ainsi une quatrième victoire et une qualification pour la finale de la Conférence Est. De son côté, Boston, qui avait remporté les trois premiers matchs, s'est incliné hier face aux Sixers, une défaite 92-103.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Tchad, au cours de la promulgation de la 4e République, le président Idriss Déby Itno a annoncé une amnistie générale à tous les Tchadiens en exil pour des raisons politiques. Cette décision vise, selon lui, à mettre tous les Tchadiens à contribution au développement de la paix et de la stabilité dans le pays. Aujourd'hui, dans l'opposition politique en exil, Achek Ibn Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères, est revenu sur cette mesure au micro de Raïssa Girondin.
Nous avions été, mes collègues et moi, pour certains, dont moi personnellement, condamnés à mort, d'autres à perpétuité, d'autres à temps. Beaucoup sont rentrés et ont bénéficié de la grâce après un séjour plus ou moins bref en prison. Et donc, sur le principe, ça ne peut être qu'une bonne chose. C'est pas parce qu'on est contre le régime qu'on est hors la loi. Maintenant, dans la pratique, on attend de voir parce que le régime n'est pas à ses premières annonces très positives. On attend de voir le texte juridique qui doit être normalement une loi votée au Parlement ou une ordonnance, le contenu exact parce que dans les déclarations des officiels et même du président, on parle aussi d'amnistier ceux qui ont commis des détournements de fonds et des choses de ce genre.
Donc vous pensez que cette amnistie pourrait donner une prime aux auteurs de détournements ?
Il y a une déclaration dans ce genre que tous les délits passés seraient effacés. Il y a une déclaration, je crois, du président lui-même. Donc on attend de voir le texte. À ma connaissance, parmi les rebelles ou les exilés qui ont été condamnés par un procès d'ailleurs tout à fait irrégulier, personne n'a été accusé de détournement. C'était atteinte à la sûreté publique, atteinte aux institutions démocratiques, des choses de ce genre.
C'est une offre qui a été rejetée par plusieurs groupes armés. Qu'en pensez-vous ? Vous pensez que ces groupes armés n'ont pas confiance en fait en cette amnistie ?
Oui, pour ceux qui sont encore à la tête de mouvements armés organisés, ils ont le droit de se méfier parce qu'il y a eu des accords de réconciliation et suivi d'amnistie par le passé. Certains se sont bien déroulés, d'autres se sont très mal terminés, coûtant la vie même aux concernés. Et il y a aussi une tendance du régime vis-à-vis de laquelle il faut se méfier, à savoir de refuser de discuter des problèmes de fond. Donc, quelque part, c'est un peu faire passer toute la lutte, toute la contestation comme relevant de l'activité criminelle sur laquelle il faut passer l'éponge, alors que sur tous ces mouvements et les jeunes qui ont pris des armes, ils ont des vraies revendications sociales et politiques et sécuritaires.
Suite à cette amnistie, êtes-vous prêt à rentrer au pays ?
C'est un obstacle qui est levé, mais il y en a d'autres, c'est assez important. C'est un premier pas, comme disent les Chinois, sur un chemin de 1000 lits. Hein. On attend de voir, le contenu de la loi, mais sur le principe, c'est déjà, ne serait-ce que pour détendre un peu le climat politique qui était très tendu. Je pense que plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide, quoi.
Voilà, c'était Achek Ibn Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères.
Bah écoute, pourquoi tu décroches pas ? Ça fait tellement de fois que je t'appelle. Attends, je connais chez toi là. J'arrive.
Bonjour, c'est Nathalie Barche pour vous rappeler que Le Monde au féminin, c'est à 19h05, temps universel ce mardi. Dans cette édition spéciale, une invitée très spéciale, la chanteuse hip-hop burkinabé Fenoz, actuellement en tournée en Amérique du Nord, nous parlerons de son nouvel album Baby, produit sous son propre label Kairi Record. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ce mardi à la même heure pour voir Fenoz en personne. À tout à l'heure.
Les États-Unis et le Mexique s'engagent à coopérer pour combattre le crime transfrontalier, notamment les gangs, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a discuté hier avec son homologue mexicain Luis Videgaray, venu de Washington. De son côté, le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a réitéré que la frontière américaine n'est pas ouverte à ceux qui veulent entrer illégalement. Le point avec Idriss Fall.
Les États-Unis ont envoyé des centaines de membres de la garde nationale à la frontière américano-mexicaine pour lutter contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Cette action fait suite à l'arrivée d'une caravane de migrants à la frontière. Depuis la Californie, Jeff Sessions les a prévenus de ne pas essayer d'entrer illégalement aux États-Unis.
Nous sommes là pour adresser un message clair au monde entier que nous n'allons pas laisser notre pays être débordé. Nous n'allons pas laisser des gens en caravane s'éloigner vers notre frontière. Nous avons besoin de légalité et d'intégrité pour notre système d'immigration.
L'administration Trump est critiquée pour ce que certains perçoivent comme de l'insensibilité à la cause des migrants qui campent à la frontière. Le ministre de la Justice a même ajouté du personnel en renfort pour accélérer les demandes de ceux qui veulent venir aux États-Unis.
J'ai envoyé 35 procureurs et 18 juges d'immigration à la frontière sud-ouest.
L'immigration à la frontière sud a été au cœur des discussions lundi entre les chefs de la diplomatie américaine et mexicaine. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a annoncé que les deux pays vont coopérer pour combattre les trafics illégaux de drogue, d'armes et d'humains à travers la frontière. Il a affirmé que les États-Unis et le Mexique vont travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie dans les pays d'Amérique centrale que les migrants essaient de fuir.
Nous travaillons avec nos partenaires du Honduras, du Guatemala et du Salvador pour réduire l'insécurité et la violence, améliorer les opportunités économiques et combattre la corruption.
Son homologue mexicain a répondu que son pays n'est plus à l'origine d'une migration directe vers les États-Unis, mais que le Mexique aussi reçoit des migrants. Luis Videgaray, ministre mexicain des Affaires étrangères, avec son interprète.
Nous devons continuer à penser en priorité à la fondamentale dignité des immigrants, quelles que soient leurs conditions migratoires.
Les deux ministres ont annoncé qu'ils vont bientôt rencontrer à Washington les représentants du Guatemala, du Salvador, du Honduras et d'autres pays pour discuter d'immigration et de sécurité à la frontière.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'année dernière, une enquête du gouvernement américain a répertorié près de 554 000 personnes sans abri dans les rues. C'est une première augmentation des personnes sans domicile depuis 2010 et cela est dû, selon les experts, à la prolifération des personnes vivant dans les rues de Los Angeles et d'autres villes de la côte ouest. Reportage Angelina Bagdasarian, récit Blanche Sanou.
Angela vivait dans une tente comme celle-ci et elle se souvient très bien de ce qu'elle ressentait comme sans-abri. Et même si elle ne vit plus dans la rue, c'est là qu'elle a passé les nuits dernières en solidarité avec le mouvement Shidaz qui soutient les femmes sans-abri à Los Angeles. Angela croit que chacune d'elles mérite de se sentir en sécurité et aimée.
Elle mérite la protection, l'amour en soi. Elle mérite tout parce qu'elles existent.
Cette cité de tente est apparue devant la mairie de Los Angeles, une tentative pour montrer aux autorités locales ce qui pourrait arriver si l'administration de la ville continue d'ignorer le problème.
En ce moment, nous sommes dans une crise de sans-abri. Si nous ne trouvons pas une solution à ce problème, c'est ce que vous allez voir dans chaque coin de rue à Los Angeles.
De plus en plus de tentes apparaissent chaque jour. Selon les statistiques officielles, plus de 60 000 personnes dans la région sont maintenant des sans-abri. En décembre 2017, un feu a commencé dans un camp pour sans-abri et a atteint les maisons voisines. Des dizaines de foyers ont été détruits. Il y a quelques jours, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a noté que la situation des sans-domicile fixe est vraiment critique.
Nous devons construire des refuges d'urgence et nous devons le faire maintenant. Des abris qui servent de tremplin vers le chemin du logement permanent.
La ville a déjà alloué plus de 20 millions de dollars à la construction d'abris temporaires. Mais certains habitants de Los Angeles s'opposent à ce qu'ils appellent une subvention pour les sans-abris.
Pourquoi la ville ne peut-elle pas aider ceux qui travaillent, les étudiants par exemple? J'aimerais aussi avoir un petit appartement propre et privé, mais je ne peux pas me le permettre. Et ils donnent des appartements à des gens qui n'aident pas du tout la société?
Avec ses voisins et des militants locaux, Tatiana tente de convaincre les autorités de la ville de bannir le phénomène vivre et dormir dans la rue. Mais jusqu'à présent, c'est sans effet.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le sculpteur Ousmane Sow avait atteint une immense notoriété lorsqu'en 2013, il a été élu à l'unanimité à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Une première pour un noir. Surnommé l'Auguste Rodin du Sénégal, l'artiste est mort à l'âge de 81 ans. À l'occasion de la Biennale de Dakar, la maison Ousmane Sow a ouvert ses portes au public le week-end dernier. Il s'agit de la maison où le sculpteur sénégalais habitait et travaillait et où près de 2 ans après sa disparition, on peut voir son atelier et ses œuvres. Reportage Mamadou Diop, récit John Lindon.
Des Nuba au Peul, en passant par les Maasai et les Zoulous, les sculptures du célèbre artiste sénégalais Ousmane Sow peuvent désormais être contemplées par le public dans sa maison du quartier de Yofa, Dakar. Sur l'initiative de sa veuve Béatrice et de ses enfants, les œuvres du grand homme reviennent à la maison.
Ousmane souhaitait que son œuvre reste à Dakar, soit installée à Dakar. Donc à son décès, ses enfants et moi-même avons trouvé que la maison, qui était quand même une maison entièrement recouverte de sa matière, avec les sols faits avec la matière de ses sculptures, était le lieu le plus adéquat. Et il y a une adéquation formidable entre les œuvres et la maison.
Dans cette maison que Ousmane avait baptisée le Sphinx, car construite à son idée comme une sculpture, l'artiste a vécu jusqu'à sa mort en décembre 2016. Aujourd'hui, entre ces murs, on peut sentir les vibrations de l'artiste à travers des œuvres inédites, mais aussi des œuvres inachevées. Écoutons les explications de sa fille, Ndei Marina.
C'est pas un musée au sens conventionnel du terme, avec un guide, avec toute la lourdeur de ce que peut représenter une maison. Ici, voilà, on peut s'asseoir, on peut faire une pause, on peut lire, on peut. Voilà, il faut que les gens. Le temps d'une visite s'approprie les lieux.
Parmi les premiers visiteurs de la maison, on peut noter le ministre sénégalais de la Culture. Pour Abdou Latif Koulibaly, les lieux reflètent l'homme tel qu'il était.
À la sortie, j'ai vite eu l'impression que cette maison est dépositaire d'une générosité sans limite. La générosité de l'artiste, par la splendeur de sa création, des œuvres monumentales, qui ont fait que cet artiste est devenu un artiste mondial. C'est un Sénégalais, il nous appartient à nous. Mais nous avons très vite compris qu'on le partageait avec les autres.
L'ouverture de cette maison d'Ousmane Sow est un moyen pour sa famille d'assurer sa pérennité, mais aussi de réaliser son rêve qui était d'ouvrir un musée au Sénégal rassemblant toutes ses œuvres.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.